Gloire à Jésus dans l'Église. Deuxième soirée. Le corps, la maison, l'épouse. Ton Église chérie t'adore et s'humilie. Nous nous sommes proposés ce soir d'envisager l'Assemblée telle que nous la présente l'Épître aux Éphésiens, sous trois aspects fondamentaux. Trois images employées aussi ailleurs dans l'Écriture, mais que l'on trouve toutes les trois dans cette épître, la maison, le corps et l'épouse. Premièrement, la maison est une comparaison familière qui nous reporte à la révélation que Jésus fait à Pierre en Matthieu 16, verset 18, sur ce roc, c'est-à-dire sur le fait que je suis le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon assemblée. Lui est la pierre de base annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Genèse 49, verset 25.
De là est le berger, la pierre d'Israël. Du Dieu de ton Père, et il t'aidera, et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice.
Psaume 118, verset 22.
La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la tête de l'angle.
Ésaïe 28, verset 16.
C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose comme fondement, en Sion, une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas.
Dieu sait plus, pour ainsi dire, à contempler à l'avance cette pierre dans toutes ses perfections, nous présentant d'abord son Fils, fondement de l'édifice, avant de parler de l'édifice qui va être construit. Vous êtes gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. Christ est le Fils du Dieu vivant, et ceux qui sont ajoutés à l'édifice sont des pierres vivantes. Quelques versets plus haut, en 1 Pierre 1, on lit que c'est la parole qui donne la vie, la vivante et permanente parole de Dieu. C'est par elle, est-il dit, que nous avons été régénérés. Seules des pierres vivantes peuvent prendre appui sur ce Fils du Dieu vivant, dans la vraie maison de Dieu telle que Dieu la voit. Peut-être y a-t-il ici, ce soir, quelqu'un que le Seigneur Jésus cherche pour qu'il accepte la vie que lui donne et elle devienne une de ces pierres vivantes. Elle viendra s'ajouter à l'édifice, une de plus, et ce sera peut-être la dernière, parce qu'il y en aura bien une dernière. L'œuvre de Christ a été de laisser sa vie pour que la maison de Dieu puisse être fondée, et c'est aujourd'hui l'œuvre du Saint-Esprit de bâtir l'assemblée du Dieu vivant. Il veut bien, pour cela, employer des ouvriers, les uns pour annoncer l'Évangile, chercher des pierres, les autres pour édifier, et ce n'est pas pour rien que nous trouvons si souvent dans les Épîtres les termes édifier, édification, qui évoquent la construction. Un mot maintenant sur ce que la parole appelle la grande maison. Il en est question dans deux passages importants, l'expression elle-même se trouvant dans 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. La maison est grande, de belle apparence, mais elle contient, nous venons de le lire, beaucoup de mélanges, croyants avec incroyants, vérité avec erreur. Nous reconnaissons bien là la chrétienté telle que les hommes l'ont organisée. Vases à honneur et vases à déshonneur en font partie les uns et les autres, mais ce qui donne leur caractère au premier, c'est qu'ils se purifient des seconds. En 1 Corinthiens 3, verset 10, Paul parle de lui-même comme d'un sage architecte. « J'ai posé le fondement, dit-il, mais que chacun considère comment il édifie dessus. » Nous voyons ici cette construction laissée à la responsabilité de chacun de ceux qui apportent des matériaux. Parmi ces derniers, il en est qui ne supportent pas l'épreuve du feu, d'autres qui la traversent victorieusement. L'or nous rappelle la justice de Dieu, l'argent le rachat des âmes, les pierres précieuses toutes les perfections du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, tout ce qui est précieux, Dieu veut l'incorporer à sa maison, et cela contribue à l'édification, tandis que le bois, le foin, le chaume, qui font du volume, avec souvent beaucoup d'apparence, le feu les fera disparaître. Enfin, Zacharie 4, verset 7, mentionne la dernière pierre ajoutée au temple terrestre. Il fera sortir la pierre du faîte, avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. Le dernier mot de Dieu, c'est toujours la grâce. Elle couronnera à plus forte raison toute l'œuvre de Dieu quant à l'Église. C'est par pure grâce que chacun est sauvé et qu'il est ajouté aujourd'hui à l'Église universelle, composée de tous les croyants, à quelque milieu qu'ils appartiennent. C'est cette Église qui sera vue un jour dans toute sa beauté, à la gloire du Seigneur. Maintenant, nous voudrions poser une question toute simple. À quoi sert une maison si ce n'est pour que quelqu'un y habite? Si cette maison est celle de Dieu, cela signifie que celui qui y habite, c'est Dieu lui-même. Éphésiens 2, verset 22 nous confirme qu'elle est une habitation de Dieu par l'Esprit. Autrement dit que Dieu, par le Saint-Esprit, sait plus à y faire sa demeure. Elle doit donc être digne de lui.
Éphésiens 2, verset 22, « En qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. »
Si nous sommes en visite chez quelqu'un, nous ne nous conduisons pas comme chez nous. Nous avons un certain comportement à y respecter, comme l'apôtre l'explique à Timothée, « Afin que tu saches, dit-il, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » 1 Timothée 3, verset 15. Si le Seigneur habite quelque part, cela ne réclame-t-il pas de toutes les personnes présentes la plus grande déférence et le respect de l'ordre établi? Voilà qui est de la plus haute importance pour ceux qui constituent une expression locale de l'Église du Seigneur. Du fait que le Seigneur est là, présent selon sa promesse en Matthieu 18, verset 20, nous avons encore moins que partout ailleurs le droit de faire ce que nous voulons.
Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
Nous ne sommes pas chez nous, mais bien chez lui. Et si nous sommes chez lui, l'homme ne peut qu'être mis de côté. Comment aurait-il l'audace d'apporter là ses idées, son organisation, ses manières de faire? Alors comment savons-nous ce qui convient à la présence du Seigneur? Il nous a donné sa parole et aussi son esprit qui nous aide à la comprendre pour nous montrer ce que veut le Seigneur et comment l'honorer. Deuxièmement, venons-en maintenant à la seconde image, celle du corps de Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons trois mentions de l'Église comme corps de Christ. Au chapitre 1, versets 22 et 23, Après la présentation de celui que Dieu a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, il est ajouté cette expression extraordinaire, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Éphésiens 1, versets 22 et 23. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Si la tête, le chef, c'est Christ au ciel, celui-ci ne serait pas complet s'il n'avait pas son corps, autrement dit l'assemblée sur la terre. N'est-ce pas une pensée merveilleuse que nous soyons le complément nécessaire d'un Christ glorifié? Nous trouvons une seconde mention du corps au chapitre 2 pour montrer qu'il est composé de deux groupes de personnes, les unes tirées du judaïsme, les autres des nations, réconciliées tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix. Éphésiens 2, verset 16.
Et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié.
Enfin, au chapitre 4, nous avons un développement plus long. « Il y a un seul corps », affirme le verset 4, à propos duquel sont énumérés les dons qui le font fonctionner.
Éphésiens 4, verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel.
Le corps de Christ comprend l'ensemble des croyants qui sont sur la terre aujourd'hui, liés à Christ glorifié dans le ciel. Nous lisons en 1 Corinthiens 12, verset 13, « Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. On voit donc que l'Esprit Saint fait l'unité des croyants en un seul corps, le corps de Christ. C'est depuis la Pentecôte que le corps de Christ existe sur la terre. On peut dire qu'il se présente comme une armée dans laquelle des soldats disparaissent, d'autres sont recrutés, mais c'est toujours le corps de Christ. La première révélation de cette vérité a été faite à Paul sur le chemin de Damas. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ainsi déjà ici, Christ s'identifie aux croyants. Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» mais « Pourquoi me persécutes-tu ? » Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. Non pas ainsi aussi est l'assemblée, mais ainsi aussi est le Christ. Le Christ comportant Jésus glorifié comme tête, et les croyants sur la terre comme membres. L'assemblée comprend tous les croyants sur la terre, mais est représenté en un lieu déterminé par les croyants qui se réunissent en ce lieu au nom du Seigneur. Ainsi, lorsque nous sommes réunis en assemblée autour du Seigneur, nous sommes comme l'expression locale du corps de Christ. On trouve cette pensée en 1 Corinthiens 12. L'apôtre parle aux Corinthiens et leur dit « Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier », verset 27, montrant ainsi l'importance de la vie collective dans une ville, dans tout lieu de rassemblement. On a l'habitude de parler des membres d'un syndicat, d'une communauté, d'un club, mais quand Dieu parle de membres du corps de Christ, il prend l'image du corps humain qui a des membres agissants. La parole de Dieu ne connaît pas les membres d'une église ou d'une communauté particulière. Nous sommes seulement membres du corps de Christ. Il s'ensuit que les membres ont chacun une fonction, comme le montre le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, ainsi que le chapitre 12 de l'épître aux Romains. Or, à chacun, et donner la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous sommes tous utiles, comme le sont tous les membres de notre corps. Nous n'avons pas le droit de dire qu'un de nos membres est inutile. Nous avons besoin de tous. Il est des membres cachés. Le cœur est caché. Personne ne le voit, mais il existe et il est fondamental dans sa fonction. La main, elle, est visible, très importante aussi. Que chacun s'examine pour savoir ce que le Seigneur lui a confié dans le fonctionnement du corps de Christ. Chacun a reçu quelque chose et aura à en rendre compte. Si une main ne fait rien du tout, elle s'atrophie. Et qui en souffre? Pas seulement la main, mais tout le corps. Ainsi nous devons tous être exercés pour discerner ce que le Seigneur a confié à chacun et aussi pour utiliser le don reçu pour l'ensemble du corps de Christ. Cela fait toute la différence avec ce que les hommes ont organisé dans les communautés chrétiennes autour de nous, où l'on met un homme à la tête pour diriger. Mais notre passage montre pourquoi il ne peut pas y avoir de hiérarchie officielle dans l'assemblée. Ce serait prendre la place de la tête qui seule est qualifiée pour faire fonctionner un membre. Pas plus qu'entre les membres de mon corps il ne peut y avoir de jalousie, il ne devrait y en avoir dans l'assemblée. Chacun est utile à sa place. Pas plus que dans mon corps les membres n'agissent indépendamment, on ne peut concevoir d'indépendance des membres du corps de Christ les uns par rapport aux autres. On trouve cette pensée dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, où nous aime plutôt montrer le fonctionnement du corps. Le corps n'est pas seulement ouïe ou seulement œil. De même, nous ne sommes pas tous docteurs ou tous pasteurs ou tous prophètes. Dans sa souveraineté, Dieu a donné, comme il lui plaisait, à chacun un don pour le bien du corps. Dans le chapitre 13, nous est montré le motif qui doit faire agir chacun dans le corps de Christ, à savoir l'amour lié à la nature même de Dieu. Dieu est amour. Toute activité dans l'assemblée doit être dictée par l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir ni bénédiction, ni édification. Qu'est-ce qui doit conduire quelqu'un à présenter un sujet, à parler, à méditer dans l'assemblée? Le chapitre 14 de cette épître répond: le but de toute action, c'est l'édification. Dieu désire que son assemblée croisse, devienne plus conforme à sa pensée, que les saints aient une compréhension plus profonde des vérités et une connaissance plus intime de la personne du Seigneur Jésus. Tout ce qui est fait dans l'assemblée doit être fait pour l'édification, pour la prospérité spirituelle des saints. Parmi les dons, il en est un que nous sommes exhortés à désirer avec une ardeur spéciale, c'est celui de prophétie. Prophétiser, ce n'est plus aujourd'hui annoncer l'avenir, c'est parler de la part de Dieu pour répondre aux besoins des âmes dans l'assemblée. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Chapitre 14, verset 3. Les différentes réunions que nous connaissons sont des occasions parmi d'autres pour le fonctionnement du corps. Dans les réunions d'adoration et les réunions de prière, il n'est pas question de dons. C'est l'assemblée qui parle à Dieu. Par contre, dans les réunions d'édification, peuvent être soit une réunion d'études, soit une méditation sur la parole, ou un exposé de doctrine, les dons ont leur place. Le Seigneur a donné des dons pour la présentation de sa parole. On voit au chapitre 14 combien il est important que ce qui est exposé le soit clairement, pour que chacun comprenne, afin qu'il en résulte de l'édification. Que le Seigneur nous accorde de bien comprendre que toute la vie de l'assemblée est liée à la vérité du corps de Christ. Le Saint-Esprit qui distribue les dons est aussi celui qui seul peut en diriger l'exercice et présider au déroulement des différentes réunions. N'est-ce pas une sorte d'outrage au Saint-Esprit dont nous chantons volontiers qu'il est notre directeur, que de préparer une réunion, de l'organiser, de laisser, d'une manière ou d'une autre, l'homme en assumer la direction. Sans doute, avons-nous aussi parfois des réunions qui ne sont pas des réunions d'assemblée, par exemple, celles qui sont convoquées à la responsabilité d'un frère pour une occasion particulière. Mais quelle bénédiction quand on se réunit en laissant au seul Saint-Esprit la responsabilité et la direction de la réunion. Les seules questions qui se posent alors sont celles-ci. Qu'allons-nous recevoir aujourd'hui? Par la bouche de qui? Et c'est une des raisons des silences qui frappe souvent de nouveaux assistants. On attend que l'Esprit, qui seul connaît les besoins, donne par l'un ou l'autre instrument ce qui sera nécessaire. Si tout était préparé d'avance, le silence n'aurait pas sa raison d'être. On peut distinguer entre les réunions, celles où l'on apporte. En premier lieu, le culte où est présentée la louange. Nous offrons à Dieu le parfum de toutes les perfections de son Fils. En second lieu, la réunion de prière où l'on apporte non l'expression de cœur rempli, mais au contraire les besoins de ces cœurs que l'on place devant le Seigneur. Puis celle où l'on vient pour recevoir. Réunion pour l'édification ou l'étude de la parole. On s'attend au Seigneur. C'est pourquoi toute réunion commence par la prière. Ainsi, dans les réunions, nous écoutons ensemble ce que Dieu nous dit par le ministère de la parole, où nous nous adressons à lui, ensemble aussi, par la prière. S'abstenir d'une de ces réunions, c'est ressembler à quelqu'un qui parlerait sans écouter, ou écouterait sans jamais répondre. Un frère qui viendrait, par exemple, à la réunion d'édification et pas à la réunion de prière, même s'il prie à la maison, se priverait d'une partie essentielle de la vie de l'assemblée. En relation avec le fonctionnement du corps de Christ, disons quelque chose des dons spirituels que le Seigneur, monté au ciel, a donnés à son assemblée et que le Saint-Esprit distribue comme il lui plaît, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Tous ces dons de l'Esprit devront s'exercer d'une manière harmonieuse. Des dons peuvent manquer dans une assemblée, mais ce qui ne manquera jamais, c'est la présence du Seigneur, et par conséquent, en lui, en son nom qui nous rassemble, nous pourrons trouver pleine suffisance. Combien c'est encourageant pour les petits rassemblements. Il arrive ici ou là que, du fait du petit nombre ou du manque d'exercice d'autres frères présents, le même frère se trouve appelé à présenter la parole à peu près tous les dimanches. Or, sauf exception, ce frère ne sera pas à la fois pasteur, docteur, évangéliste. Il aura peut-être de la peine à se renouveler dans ses sujets, dans ses expressions. Mais ce qui est important, c'est que la présence du Seigneur dans l'assemblée soit réalisée. S'il en est ainsi, et que l'on s'attende à lui, il est impossible de ne pas recevoir. La foi pourrait-elle être déçue quand le Seigneur est là? Si quelque chose manque dans l'assemblée, ce n'est pas la faute du Seigneur, nous le comprenons bien. Et ne nous plaignons pas du ou des frères sur qui repose une charge plus lourde qu'ils ne le voudraient. Non, ce qui manque, c'est ma foi. Je ne m'attends pas à recevoir quelque chose, peut-être par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de présenter la parole, ou tout simplement par un verset de l'Écriture. C'est donc là un point capital, toujours nous attendre au Seigneur dans les réunions. La foi qui compte sur lui demande tout simplement « Seigneur, je suis ici chez toi, tu sais ce dont j'ai besoin, donne-le-moi, et nous ne partirons jamais déçus. » Troisièmement, la troisième image de l'Église que nous avons dans les Éphésiens parle davantage aux affections, c'est celle de l'épouse. Que Dieu se serve ainsi de plusieurs illustrations pour nous présenter la même vérité sous plusieurs côtés, rappelle la limitation de nos esprits pour entrer dans des faits qui nous dépassent tellement. Dieu est obligé d'employer des comparaisons familières, une maison, un corps humain, une épouse. Cette dernière représente l'Assemblée au chapitre 5, versets 25 à 32. Le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Ce mystère est grand et Dieu l'avait soigneusement caché, comme Éphésiens 3, verset 9 nous l'a montré.
Et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses.
Il avait sa pensée, mais ne pouvait la révéler avant l'accomplissement de l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas chercher l'Assemblée dans l'Ancien Testament. Et pourtant nous y trouvons ici ou là quelques personnifications de l'Église, à travers des femmes, épouses d'hommes de Dieu, qui sont eux-mêmes des types de Christ. Dès le deuxième chapitre de l'Écriture, nous trouvons le premier de ces types. Dieu prend une côte d'Adam pour former Ève, sa femme, et ensuite la lui amène. « Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair », s'écrit celui-ci. Puis nous avons Rebecca, et le beau chapitre 24 de la Genèse montre où, et par qui, et pour qui cette épouse est recherchée. Le serviteur, figure du Saint-Esprit, l'a conduite à Isaac, type de Christ. Asnath, épouse de Joseph, tirée d'entre les nations idolâtres, Séphora, femme de Moïse, Abigaïl, qui devient celle de David, typifie toutes les trois l'épouse acquise pendant le temps de la réjection et destinée à partager plus tard la gloire et l'héritage de son époux. Une aide qui lui corresponde, c'était déjà la pensée de Dieu à propos d'Adam, à plus forte raison à propos du dernier Adam. Une aide, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger ses pensées, tout partager, qui nous comprend et que l'on comprend. Quelle merveille! Ceux d'entre nous à qui le Seigneur a fait la grâce de donner une épouse connaissent cela par expérience et peuvent apprécier mieux que d'autres ce qu'est l'Église pour le Seigneur, une nécessité pour son cœur. C'est un peu ce que le chapitre 1 d'Éphésiens suggérait à propos de la tête, du chef, qui ne serait pas complet sans son corps. Ainsi, pour Christ, l'épouse est un besoin de ses affections. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Jean 17, verset 24. C'est le désir le plus ardent de son cœur d'avoir avec lui celle qu'il aime. Dans le passage d'Éphésiens 5, on a trois aspects de son travail, l'un passé, le second présent, le troisième futur. Ce qu'il a fait, au verset 25, le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. C'est accompli. Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter la perle de grand prix. En Galates 2, verset 20, Paul s'écrit « Il s'est livré lui-même pour moi ». C'est individuel. Chaque racheté peut s'exprimer ainsi. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 2, nous trouvons le côté collectif. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Mais le verset 25 du même chapitre précise qu'il ne s'agit pas simplement d'une somme d'individus. Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. L'Esprit de Dieu nous fait ainsi comprendre non seulement ce que, par amour, Christ a fait pour nous, mais bien plus, ce que, par le même amour, il a fait de nous. Oui, l'Esprit rappelle à l'Église « Voilà ce que tu as coûté au Seigneur Jésus. Tu n'es rien de moins que son épouse. » Ce qu'il fait maintenant. Au verset 29, nous trouvons le travail présent du Seigneur à l'égard de son assemblée. Il la nourrit et la chérit. L'un ne va pas sans l'autre. Le Seigneur a pourvu à notre besoin de nourriture spirituelle. Il nous a donné sa parole, il nous a envoyé son esprit. Au moment de quitter les siens dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon Jean, il leur a laissé des ressources. Il a préparé, pour ainsi dire, leur provision de route. Il leur dit « Je vais vous quitter, je vous laisse pour un peu de temps, mais je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. » Les dons qui s'exercent dans l'assemblée sont donnés en vue de nourrir le troupeau. À l'image d'une épouse, objet des soins de son mari, lequel pourvoit aux besoins du ménage, l'assemblée est nourrie par le Seigneur. Tout chef de famille pourvoit par son travail aux besoins matériels des siens, mais ce serait un triste foyer que celui dans lequel le mari ne s'occuperait que de la charge financière. Le verset 29 ajoute « Il la chérit ». Quelle tendresse dans cette expression. Qu'une épouse soit aimée, combien c'est plus précieux pour elle que d'être simplement dans l'aisance. Il la nourrit et la chérit, et cela pour tout le temps du chemin. Avec les années, rides et taches apparaissent. Les signes de fatigue se multiplient pour l'épouse, mais l'amour de l'époux ne se fatigue pas, ni les témoignages qu'il en donne. Et ce qu'il fera, le travail d'amour du Seigneur envers son Église comporte une phase future et finale, cette présentation de l'Assemblée à lui-même, verset 27, afin que lui, il ne laissera à personne le privilège de le faire, se présente à l'Assemblée à lui-même avec toute son autorité de Seigneur, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Tous les fâcheux souvenirs de la terre seront oubliés. Toutes ces rides, toutes ces taches, toutes ces choses semblables auront pris fin. Le Seigneur aura effacé tout cela. Il se présentera à son épouse dans toute sa beauté, et il contemplera en elle le résultat, le fruit du travail de son âme. Ce sera entièrement à sa gloire et pour la satisfaction de son amour parfait. Ce tableau ne serait pas complet s'il n'était pas dit un mot des noces de l'agneau. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur, car le fin lin ce sont les justices des saints. Apocalypse 19, versets 7 et 8. La joie remplit le ciel. Le désir du cœur du Seigneur est enfin satisfait. Il est dit, sa femme s'est préparée. C'est donc que cette préparation est à sa responsabilité. Et pourtant, tout est grâce. Il lui a été donné d'être vêtue de fin lin. Elle n'est parée que des gloires et des beautés du Seigneur. Ton épouse, à ton côté, reflétera ta puissance et ta grâce et ta beauté. Le fin lin, ce sont les justices des saints ou les actes justes des saints, c'est-à-dire ce qu'ils auront fait sur la terre et qui sera à la gloire de leur Seigneur, ce qui sera imputé à l'Église et visible sur elle. Elle sera présentée avec l'agneau, mais tout sera à sa gloire à lui. Elle pourra lui dire « Tout ce que je suis, je te le dois, Seigneur. »